Radio Présence à Belmont-sur-Anse, 93.1.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus, Présence Midi en direct. Nous sommes très heureux de vous accompagner durant votre pause déjeuner à quelques jours maintenant de la rentrée scolaire. Nous irons nous balader autour de Lourdes avec des randonnées familiales accessibles à tous. 5 balades autour de Lourdes seront proposées par Laurent qui sera avec moi de l'Office de Tourisme de Lourdes. Notamment, nous irons du côté du Pic du Gers, on en parlera aux alentours de 12h50. Et puis, nous resterons dans le département des Hautes-Pyrénées pour découvrir un lieu de vie pour des personnes en situation de handicap. Cette maison d'accueil spécialisée se trouve dans la Haute-Pyrénées, dans la commune d'Arins, Marsous. Et puis, nous irons découvrir le Val d'Arize. Le Val d'Arize, c'est une entreprise spécialisée de lainage qui est implantée à Ciotat, un savoir-faire typiquement pyrénéen. Nous irons découvrir l'atelier avec le gérant de cette structure. Voilà pour les grandes lignes de cette émission, avec, sans oublier, à 12h30, le journal régional. Pour le moment, une pause musicale pour débuter ce Présence Midi. Bon appétit et bonne fin de vacances à vous qui êtes peut-être encore de passage et en vacances dans notre belle région. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived. My Eyes of You à 12h04, direction le département des Hautes-Pyrénées. Plus précisément, nous allons dans le sud du département à Arins-Marsous avec Anne-Rose Jankovic.
Présence, durant tout l'été, ce sont les meilleurs moments de l'année. Présence, durant tout l'été, ce sont les meilleurs moments de l'année.
Présence. Bonjour Fabien Crampé. Bonjour.
Merci de nous accueillir ici à la Masse d'Azun, à Arens-Marsous. Vous allez nous expliquer ce qui se vit ici. C'est un lieu de vie pour des personnes lourdement handicapées. Alors, une fois que j'ai dit ça, j'ai peut-être dégrossi l'explication, mais je n'ai pas tout dit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout simplement où est-ce que nous sommes ?
Alors, nous sommes dans une maison d'accueil spécialisée qui accueille, comme le nom l'indique, des personnes en situation d'handicap. Alors, c'est des personnes majeures souffrant d'un ou plusieurs handicaps lourdement. Du coup, ça amène un accompagnement tant social que médical permanent, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Ce sont des personnes qui ont vécu pour un temps à domicile, aidées peut-être de proches ou de structures à domicile, et qui à un moment viennent ici parce que ça n'est plus possible de rester chez elles. Quel est le profil des personnes qui sont ici ?
Il y a de plus en plus. C'est surtout des personnes qui ont été avant, qui sont des personnes, quand il y a eu un polyhandicap de naissance, institutionnalisées, entre guillemets, c'est-à-dire qui étaient en institution depuis leur jeune âge, ensuite pouponnière, ou dans l'adolescence au niveau des IME jusqu'à leur majorité. Après les majorités, il y a l'orientation qui fait que ce soit une maison d'accueil spécialisée. Voilà pour des personnes qui sont en situation de handicap de naissance. Il y a également des personnes cérébrolésées. Nous accueillons une dizaine de résidents cérébrolésés, c'est-à-dire qui ont eu un accident de la vie. Exemple, traumatisme crânien dû à un accident ou autre, AVC, ou le besoin permanent d'accompagnement social et médical, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, est primordial pour leur bien-être.
Donc ça veut dire tous les gestes du quotidien, du lever au coucher, pour la toilette, pour manger, pour se déplacer, c'est tous ces gestes-là qui ont besoin d'être accompagnés.
Oui, voilà, totalement. C'est pour ça que l'établissement est divisé en 5 unités, où des professionnels travaillent durant toute la journée jusqu'au soir, du matin au soir, qui exécutent des actes de la vie quotidienne. Comme vous l'avez très bien dit, ça va du lever au petit déjeuner, au temps de toilette, au repas du midi, à des activités sociales, éducatives et occupationnelles, et ensuite le temps du repas et le temps du coucher. Et ensuite, le soir, il y a des personnes de nuit, des veilleurs, comme on appelle, qui assurent la sécurité des résidents au sein de la masse.
Combien de personnes sont employées ici pour prendre soin des résidents qui sont...
À peu près 72 personnes employées. Est employée pour couvrir le quotidien de ces résidents, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
Oui. Alors, c'est un lieu de vie, je l'ai dit, donc ça suppose aussi que les choses sont faites, organisées, pour que chacun des résidents se sente comme à la maison, comme chez lui, enfin pour qu'il ait son univers un peu intime, personnel. Comment on fait dans une structure telle que celle-ci pour que chaque résident soit bien ?
Alors, au sein de la structure, alors c'est là où tous les enjeux des professionnels rentrent en compte. Il y a... Pour faire face à cette demande des résidents, justement, d'inviter, bon, sachant que chaque résident a une chambre individualisée. Et ensuite, bon, ils vivent en communauté, mais le respect de l'intimité, comme vous dites, est primordial. Ça fait écho à chaque professionnel a une éthique et travaille pour un projet associatif, déjà qui donne des lignes de conduite, et également un projet personnalisé. Chaque résident a un projet personnalisé, ce qui donne une ligne de conduite, entre guillemets, un chemin à suivre pour les professionnels, pour respecter les envies, les désirs et le rythme de chaque résident.
S'agissant des familles, voilà, de l'environnement familial ou amical de ces résidents, comment vous travaillez avec ces personnes-là pour que, eh bien, la personne qui vit ici soit bien et que la connexion soit faite aussi avec le monde extérieur ?
Alors, au niveau des familles, alors ça reste des personnes adultes. Donc, au niveau des beaucoup de résidents n'ont plus évidemment leurs parents, mais un lien familial et ça rentre aussi également dans le projet associatif de l'APF France Handicap, de maintenir le lien avec les familles. Ça va s'expliquer par des temps de rencontres durant des périodes festives type Noël par exemple, ou des repas de Noël. Un maintien est fait par les équipes pour les anniversaires et ensuite les moyens de 2025, c'est-à-dire les connexions vidéo, les vidéoconférences et tout ça pour entretenir une relation qui est importante et qui est au cœur de notre boulot d'éducateur social quand même. Et voilà.
Ça, c'est votre travail, votre mission à vous, exactement ça. Vous êtes animateur. C'est vous qui coordonnez toute cette partie-là, qui n'est pas du soin en termes médical, mais qui est de l'accompagnement.
Oui, effectivement. Moi, je m'occupe. Alors, c'est un peu particulier. C'est animateur social. Il y a des temps du fait que ce soit des personnes, des résidents assez dépendants. Il y a quand même des activités occupationnelles, mais le cœur de mon métier reste quand même l'animation sociale. Et dans l'animation sociale, il y a sur des objectifs type l'inclusion par exemple. Mmh. Et donc c'est aller vers l'extérieur à travers des activités, donner un but, faire valoir, promouvoir les différences et le handicap dans diverses activités. Et après ça va des soirées de théâtre par exemple. Oui. Comme un partenariat est fait avec l'école maternelle où un groupe de résidents ils vont deux fois par semaine par exemple pour susciter les interactions avec l'extérieur, tout simplement.
Voilà. Alors, donc ça fait du bien, on imagine, à tout le monde, à la fois aux résidents et puis au monde extérieur, à ces enfants qui peut-être n'ont pas d'autres... les enfants que vous allez rencontrer à maternelle qui n'ont pas d'autres occasions de rencontrer, d'échanger avec des personnes porteuses de handicap lourd.
Oui, tout à fait.
L'idée, c'est quoi? C'est de dédramatiser
Oui, c'est ça, de dédramatiser, mais on s'aperçoit très vite que les enfants n'ont pas encore toutes les connaissances, enfin, ou toutes
je sais pas comment... Ils n'ont pas de filtre, en fait.
Voilà, ils n'ont pas de filtre et ils n'ont pas tous les a priori qu'ont les adultes. Donc, du coup, c'est plus facile. Mais effectivement, ça permet aux résidents de voir plus des générations. Ça reste aussi des activités intergénérationnelles, vu que ces résidents-là n'ont soit les familles, soit les professionnels comme lien social. Et ça permet justement d'aller vers l'extérieur, d'aller vers ces jeunes générations qui n'ont pas l'habitude. Et après, Arens-Marceau, c'est quand même historiquement un lieu, un territoire qui accueille des personnes en situation de handicap. Donc voilà, ça semble naturel d'aller solliciter cette population-là des jeunes et de même que les vies du village, la vie du village.
Alors ça, c'est un point très important, il faut quand même l'expliquer puisque il faut quand même redire que Arens-Marceau, c'est dans le Val d'Azun, donc on est quand même au-delà d'Argelès-Gazost, on est vraiment à la campagne, hein, au fond de cette vallée du Val d'Azun. Quand on arrive ici et qu'on découvre cette maison d'accueil spécialisée, on peut quand même être étonné de cette implantation ici. Pourquoi implanter une maison? Alors, vous sous-entendez le lien historique. Est-ce que vous pouvez expliquer quand même en quelques mots pourquoi il y a cette maison-là ici, au beau milieu de la campagne et de la montagne?
Mais tout d'abord parce que le Val d'Azun est une vallée magnifique.
On est d'accord.
Est une vallée magnifique où il fait bon vivre, mais peut-être qu'historiquement, à travers le handicap, mais cela ça n'engage que moi, la personne en situation de handicap, fallait la cacher. C'était une personne qu'il fallait cacher, donc ça allait au-delà des institutions. Il y avait très peu d'institutions au sein des villes, de grandes villes, et c'était justement à l'extérieur des villes. Donc cela peut expliquer, c'est une des choses, des causes peut-être, que ce soit reculé dans cette belle vallée du Val d'Azun.
Donc historiquement, il y avait ici, alors pas sur ce même site, mais vraiment collé à la chapelle du sanctuaire Notre-Dame de Poix-et-Lahun, ce qu'on appelait un sanatorium qui accueillait les grands blessés de la guerre 14-18. Hein, c'est ça?
Oui, c'est ça, tout à fait. Exactement. Et après, l'évolution des associations et du handicap ont fait que nous en arrivons là. Et, voilà.
Voilà. Alors, comment aujourd'hui, alors peut-être redire que cette structure-là, ce bâtiment, il est quasiment neuf, même si historiquement, enfin depuis des années, il y a ici à Arens-Marceau un accueil de vie pour les personnes lourdement handicapées, polyhandicapées, mais ce bâtiment-là dans lequel nous nous trouvons est assez récent, c'est au début des années 2010, je crois.
Oui, 2012. 2012 exactement, les premiers résidents sont venus en 2012 dans cette masse qui était complètement différente, parce que là ça a permis, on parle de 2012, mais ça leur a permis d'avoir des chambres individuelles, chose qu'il n'y avait pas avant, de même que où ils partagent aussi même également des salles de bain juste pour deux chambres, alors qu'avant c'était pas le cas. Donc du coup il y a vraiment la considération de l'être humain au-delà du handicap quand même qui a été pris en compte dans cette structure là, et c'est l'évolution du secteur médico-social qui veut cela, quoi, et c'est bien.
Et comment aujourd'hui en 2025 quels sont les leviers pour faire encore évoluer ces lieux de vie de handicap? Quels sont peut-être les défis là en 2025 qu'il faut relever selon vous?
Les défis, il y en a beaucoup. Et puis, vu la conjoncture actuelle, fait que c'est compliqué. Mais en termes de moyens humains, mais l'établissement fait en sorte quand même que et heureusement, au jour d'aujourd'hui, quand même, le résident est vraiment au cœur de l'accompagnement social, éducatif et médical, où on tient compte de ses envies. C'est important de le préciser. De par mon métier, je fais en sorte que ça me permet également de travailler. Et cela fait que, par exemple, les résidents ont le choix, on leur donne encore le choix, les envies, et c'est primordial on leur donne des objectifs, tout simplement, de se fixer des objectifs de vie, et ça reste très bien. Après, bien entendu, comme je disais, c'est en termes de moyens humains.
Parce que vous manquez de personnel, c'est ça que vous voulez dire ?
Oui, tout à fait, il manque de personnel. Ben, on paye le fait d'être sûrement en fond de vallée. Il y a un manque de personnel évident, qualifié, bien sûr.
Donc, à la fois du personnel soignant et à la fois du personnel qualifié pour tout ce qui est l'animation et l'accompagnement, comme vous faites vous.
Oui, et de soins également. Oui, surtout. Donc voilà. Mais il se fait quand même, heureusement, des choses. Heureusement, ils vivent dans des bonnes conditions. Tant dans l'accompagnement des gestes du quotidien que également dans le social, où on peut tenir compte de leur envie. Exemple, la messe par exemple, ou un groupe de catholiques baptisés est amené régulièrement à la messe, où on se détache, en l'occurrence moi et une équipe et des professionnels du quotidien se déplacent pour les amener à la messe, c'est-à-dire à l'église de Marsous. Et tous les 15 jours. Il fut un temps où on arrivait à le faire toutes les semaines, mais là on le fait tous les 15 jours. Et c'est à la demande, avec l'accord de la direction, car monsieur le prêtre Dominique pouvait proposer, justement pour faciliter, dû à ces problématiques de manque de personnel, de venir dans l'établissement. Mais comme je vous ai dit avant, avec les objectifs d'inclusion, on tient absolument, sorte et à la messe. Donc à la messe, c'est dans une église que ça se passe, et même c'est pas dans une salle polyvalente de la structure.
Voilà, donc c'est dans une église avec tout le reste de la communauté paroissiale, voilà. Avec les habitants de la vallée, etc.
Voilà, tout à fait.
Ça c'est important, on entend bien. Alors j'ai encore deux questions avant de vous libérer, Fabien Crampé. D'abord, ces résidents, ils viennent d'où ? Est-ce que ce sont des personnes originaires de la vallée ou du département, ou est-ce que des personnes viennent un peu d'au-delà ?
Alors, ils viennent un peu de tout ça, quoi. Il y a une majorité vient quand même hors du département, surtout au niveau du sud de la France. Donc ça va de l'est à l'ouest, et du sud de l'est à l'ouest. Ensuite, de plus en plus, il arrive à avoir des personnes quand même du département, voire même de la région. Et donc ça favorise justement le lien familial et dû à des rapprochements familiaux. Donc ça permet de maintenir et de créer ce lien familial. Et voilà.
Cette masse maison d'accueil spécialisée, elle dépend de l'APF, l'Association des paralysés de France.
Oui, c'est ça. Enfin, de l'APF France Handicap, pardon.
De l'APF France Handicap. Voilà. Donc c'est un réseau qui est national.
Oui, tout à fait. C'est une association nationale.
Ici, c'est une des entités de ce réseau. Voilà, ici à Reims-Marsous. Ça, c'est bien. Ça.
Bravo, c'est ça, voilà. Tout à fait. Quoi.
Allez, toute dernière question, qui est plus personnelle, Fabien Crampé. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous de faire ce métier ? Il suffit de venir quelques minutes pour voir ce que vous apportez aux personnes que vous accompagnez, mais qu'est-ce que ça vous apporte à vous au quotidien
Ah, c'est un métier qui, c'est de l'accompagnement de la personne en situation de handicap, ou même si physiquement, visuellement, ça ne se voit pas trop, il y a énormément de vie, ça apporte énormément d'humanité, je trouve. Et quoi de plus valorisant et motivant de se lever le matin pour accomplir des objectifs de vie de personnes et de faire en sorte de les réaliser. Tout simplement. Et d'avoir des sourires toute la journée, même si effectivement tous les jours sont différents. Heureusement, il y a des jours où ça rigole énormément et quelques jours où c'est un peu plus difficile. Mais c'est tout le temps avec le sourire que je viens ici.
Un grand merci à vous pour vos explications et votre témoignage, Fabien Crampé. Merci de nous avoir accueillis ici au MAS d'Azun, maison d'accueil spécialisée à Arins-Marsous. Un grand merci à vous.
Merci beaucoup.
Voilà, et merci aussi à Anne-Rose Jankovic qui a réalisé ce reportage il y a quelques semaines. Nous étions donc à Arins-Marsous, ça se trouve dans le sud du département des Hautes-Pyrénées. Bon appétit, à suivre dans les prochaines minutes l'actualité régionale avec le journal à partir de 12h30. Et puis nous irons nous balader autour de Lourdes avec 5 randonnées. C'est Laurent qui va nous proposer ces balades et qui sont accessibles même en famille. Nous irons notamment du côté du Pic du Gers ou bien encore autour de la ville de Lourdes. C'est à suivre dans les prochaines minutes.
Tes erreurs et tes peurs, je les efface. Et chaque faux pas que tu feras, je tomberai à ta place. Mon seul plaisir sera de t'offrir une vie idéale, sans peine et sans mal. Et j'ai découvert qui je suis. Tout a changé le jour où je t'ai donné la vie. Et si jamais le monde t'est trop cruel, je serai là, toujours pour toi. Que tous tes amours soient sûrs, tes amis sincères. Où la haine est la seule étrangère. Je ferai un monde où tout ira bien. Tu seras jamais seul, tu manqueras de rien. J'ai découvert qui je suis. Tout a changé le jour où je t'ai donné la vie. Et si
ce voix de Terry Mouise pour nous accompagner à la mi-journée en plein cœur de présence midi. Il est l'heure de faire un point sur l'actualité régionale avec le journal qui est présenté par Carla Ponce de l'école de journalisme de Blagnac. Bonjour Carla.
Bonjour à tous. Dans le Gers, la dermatologie est en détresse. Depuis le départ des deux derniers spécialistes du département, obtenir un rendez-vous relève du parcours du combattant. Certains habitants doivent appeler jusqu'à dans les départements voisins pour être pris en charge. Face à cette situation, l'Agence régionale de santé se veut rassurante. Deux dermatologues doivent prochainement s'installer à Auch avec un dispositif de téléconsultation et de téléexpertise pour améliorer le suivi des patients. Mais qu'est-ce que c'était que cette alarme hier? Si vous habitez du côté de Montaudran, Ormeaux, Limerac ou de Côte-Pavée, vous avez sans doute entendu une sirène retentir lundi matin. Eh bien, pas de panique, il ne s'agissait pas d'un accident ou d'un incident, mais simplement d'un test de sécurité pour la future ligne C du métro de Toulouse. Les entreprises qui construisent le tunnel voulaient vérifier le bon fonctionnement du système d'alarme dans les stations déjà avancées. Résultat, une grosse alerte sonore, mais aucun impact à la surface, ni pour la circulation et encore moins pour les riverains. Dans le Lot, les agriculteurs lancent un cri d'alarme face à la sécheresse. Maïs grillé, vignes brûlées, vaches en souffrance. Les pertes de récolte pourraient atteindre 50%. La production laitière chute. Certains viticulteurs estiment perdre jusqu'aux 3/4 de leurs vendanges. Tous pointent la même urgence, l'accès à l'eau jugé vital pour sauver leur culture. Dans les campagnes lotoises, les yeux sont désormais rivés vers le ciel. À Lourdes, l'église du Sacré-Cœur et son nouveau parvis seront inaugurés samedi 30 août à 16h. Après plusieurs années de travaux, le site a totalement réaménagé, pavage, fontaine et restauration complète de l'édifice. La cérémonie se fera en grande pompe avec chant, bénédiction et la révélation d'une statue de Bernadette face à celle de l'abbé Péramal. Pour des raisons de sécurité, seuls les détenteurs d'invitations pourront entrer dans l'église, mais la cérémonie sera retransmise sur des écrans géants depuis le parvis. À Villeneuve-sur-Lot, la campagne d'effarouchement des étourneaux a débuté hier. Jusqu'au 12 septembre, des agents municipaux interviendront chaque soir de 21h à minuit. L'objectif, chasser des milliers de volatiles qui perturbent la vie des riverains par leurs fientes et leurs vacarnes. La méthode utilisée repose sur la diffusion de cris de prédateurs pour les inciter à quitter les lieux. Une technique jugée efficace et respectueuse de l'équilibre écologique. Et enfin, à Montauban, l'aventure commence enfin pour les seniors de la maison d'Isis. Après près de 10 ans d'attente, 9 membres de l'association se sont installés hier dans leur appartement de la résidence Montalba. Ils disposent désormais d'une salle commune où se tiendront réunions, jeux ou encore moments de lecture. L'objectif reste inchangé, bien veiller ensemble dans la convivialité et l'entraide.
Merci Carla Ponce de l'école de journalisme de Blagnac. Retour de l'info, ce sera tout à l'heure dès 13h avec l'actualité nationale et internationale. Dans un instant, direction les Hautes-Pyrénées. Le Val d'Ariz est une entreprise de lainage implantée dans les Hautes-Pyrénées à Ciotat, un savoir-faire typiquement pyrénéen. Nous allons découvrir ce savoir-faire dans un instant avec le gérant qui va nous faire découvrir son atelier. Tout ça au micro d'Anne-Rose Jankovic. Ce sera juste après les Frangines qui nous accompagnent en musique avec Demain dès l'aube.
Présence à l'Acapelle Marival, 97.7.
Merci de nous écouter, vous qui nous écoutez dans notre région Occitanie. Dans un instant, on ira se balader avec Laurent de l'Office de Tourisme qui va nous proposer plusieurs balades autour de Lourdes. Ces balades sont accessibles pour la plupart en famille. Ce sera aux alentours de 12h50. Mais pour le moment, on va découvrir l'atelier du Val d'Arize avec Anne-Rose Jankovic qui s'est rendue sur place il y a quelques semaines. Reportage.
Présence à Aurignac, 94.1.
Si vous avez déjà eu l'occasion de vous promener du côté de Bagnères de Bigorre et de parcourir le magnifique axe qui vous conduit de Bagnères jusqu'à Tournai, alors sans doute êtes-vous passé devant l'entreprise du Val d'Arize, l'Ainage des Pyrénées, une petite entreprise familiale implantée dans le village de Ciotat et qui conserve un patrimoine et un savoir-faire typique de notre région. Nous découvrons aujourd'hui les ateliers avec Romain Lopez, gérant de l'entreprise.
Alors, on est ici dans l'atelier de confection, voilà. Donc où on a toutes les petites machines pour coudre, pour assembler les parties des vêtements. Donc les surjeteuses, les piqueuses, les boutonnières, pose-boutons, ourleuses, festonneuses. Voilà, on a toutes les petites machines qui servent à confectionner nos articles. Ensuite, on va passer à la production du tissu. Donc voilà, on arrive sur la première étape de fabrication du tissu. Donc nous, on reçoit les bobines comme ça, déjà teintes, déjà filées. Et on va en faire des bandes de fil qu'on va venir enrouler autour du tambour en bois. On va faire un certain nombre de tours, puis on va décaler, faire une autre bande, et ainsi de suite, jusqu'à remplir le tambour en entier. Et ensuite, on va ensouper, c'est-à-dire qu'on va mettre tous les fils qu'il y a sur le tambour en bois, on va les passer sur les rouleaux métalliques que vous avez derrière. Voilà. Et ensuite, ces rouleaux métalliques vont servir à faire notre tissu des Pyrénées. On va ensuite le tricoter sur les étapes suivantes. Voilà. Donc, on voit les bandes de fils qui ont été faites. Voilà.
Ça, c'est de la laine.
Voilà, c'est de la laine. Voilà. Et on voit les bandes de fils qui ont été faites. Et ensuite, tout en même temps, sont enroulées autour du tambour en autour du rouleau métallique. Voilà. Et ensuite, on les porte avec le palan, parce que bon, ça pèse quand même son poids. Voilà. Et donc, on va les mettre sur les métiers à tricoter. Voilà. Donc, ce sont des métiers Rachel. Ce sont des métiers Rachel. Ce sont un mélange entre le tissage et le tricotage. Voilà. Le rouleau de devant va tricoter, faire des boucles dans des boucles, et les rouleaux de derrière vont faire un système de va-et-vient qui s'apparente au tissage. On n'a pas la navette qui fait de droite à gauche. Voilà. Donc on voit quand même ici là, les aiguilles qui montent, qui attrapent les fils.
Et qui tricotent.
Et qui tricotent. Voilà. Voilà. Donc là, sur cette machine, il y a 1737 fils qui tricotent en même temps. Voilà. Donc il faut avoir l'œil dessus. Pas qu'il y en ait un qui casse, voilà. Voilà. Et donc ça donne ce tissu, voilà, qui est indémaillable. C'est la première étape de fabrication. Et ensuite, on va carder ce tissu pour donner exactement de l'épaisseur, de la douceur et surtout le terme tissu des Pyrénées. Quoi. Carder, ça veut dire gratter avec des chardons. À la base, on a une petite machine d'exposition là-bas. À l'origine, on utilisait des poilus brouillés, voilà. Cardé, ça vient de chardon, en fait. On va passer le tissu dans cette machine, une carde. Donc on va gratter plusieurs fois, en droit, en vert. Dans un premier temps, on va agresser le tissu, faire sortir la fibre. Et dans un second temps, on va...
Tissu,
voilà, exactement.
Ça, c'est avant le passage.
Voilà. Là, il n'y a pas eu de passage. Ici, comme vous pouvez le voir, on a gratté qu'un côté d'abord. Voilà, là, ça n'a pas été gratté. Et une fois terminé, ça donne ce tissu.
C'est incroyable.
Voilà. Et ensuite, là, nous avons toutes les petites machines de finition, celles qui font les côtes, les ganses, les galons. Mis à part les boutons et les fermetures éclair, nous fabriquons tout ici, tout sur place.
Bonjour Romain Lopez.
Bonjour.
Vous êtes le gérant de la société Val d'Arize. C'est une fabrique de tissus des Pyrénées, à quelques kilomètres de Bagnères de Bigorre, à Ciotat exactement. Est-ce que vous pouvez d'abord nous présenter cette entreprise qui est, je crois, familiale ?
Alors oui, c'est une entreprise familiale qui a été créée par mon grand-père en 1978. Et voilà, ensuite ma grand-mère a repris, mon père, ma mère, et maintenant moi, j'ai repris en début d'année, en janvier. Et voilà, c'est un tissu de lainage des Pyrénées, c'est un tissu 100% pure laine, donc on vient tricoter le tissu et ensuite on va le gratter pour avoir cet aspect doux, épais, chaleureux. Voilà.
Donc c'est la laine qui provient des moutons des Pyrénées? Pas tout à fait.
Non, alors c'est la manière de faire qui vient des Pyrénées.
D'accord.
La laine, les moutons, eux, sont étrangers. Ils viennent de grosses productions néo-zélandaises, australiennes, sud-américaines.
Voilà. Et ça vous arrive donc par grosse remorque, racontez-nous.
Alors non, nous on reçoit les bobines de fil déjà filées, déjà cardées, déjà teintes. Voilà, donc on choisit le fil à la couleur, on choisit la couleur qu'on veut tricoter. Et ensuite, on les met sur les métiers. Voilà.
Alors, votre métier à vous, c'est justement de travailler sur ces machines qu'on appelle, d'un nom que vous m'avez dit tout à l'heure, mais que j'ai oublié.
Alors, il y a plusieurs machines. Il y a l'ourdissoir, qui consiste à faire des grosses, avec ces petites bobines de fil, on va en faire des grosses bobines. Voilà. Ensuite, il y a les métiers Rachel. Ce sont les métiers à tricoter. C'est un mélange entre le tissage et le tricotage. Voilà. Et ensuite, il y a la carde où on va gratter le tissu une fois tricoté. Voilà.
Et ça, c'est vous qui faites ça. Vous êtes tout seul sur ce poste-là pour gérer ces machines.
Oui, effectivement, je suis tout seul à la ligne de production de tissu. À une époque, on était plusieurs, mais voilà.
Alors, pour nous donner une idée, combien de mètres de tissu pouvez-vous produire chaque jour grâce à ces machines? Et vous tout seul, en plus.
Alors, à la journée, on va faire une centaine, 150 mètres. Ça dépend des journées. Voilà.
Avec à chaque fois les teintes que vous sélectionnez en fonction de ce que vous envisagez de produire juste après.
Exactement. Voilà.
Alors, une fois que ces tissus sont fabriqués, qu'est-ce qui se passe? L'étape d'après, c'est quoi?
Alors, ensuite, on va découper des pièces de tissu qu'on va ensuite confectionner pour faire nos produits, nos robes de chambre, des vestes, des ponchos.
Ça, c'est la spécialité, robe de chambre, poncho, c'est la spécialité de production ici.
Oui, oui, la robe de chambre, c'est notre produit phare, on va dire. Voilà, notre produit principal.
C'est un produit qui est encore à la mode?
Eh bien, oui, plus ou moins, oui, bon, pour une certaine tranche d'âge. Mais on arrive à en vendre pas mal, oui.
Alors, comment on renouvelle, justement, le style, les propositions de style, comment on fait pour proposer des produits qui peuvent plaire à toutes les générations et voilà pouvoir aussi continuer à faire ce métier-là tout en ne tombant pas dans une spécialité pour une certaine tranche d'âge.
Eh bien, alors on a une styliste qui nous crée de nouveaux modèles. Voilà, et puis on essaye de se diversifier dans les coloris, faire des couleurs un peu plus flashy. Ouais. Voilà, des écossais un peu plus pêchus, on va dire, voilà.
Toutes les couleurs marchent.
Oui, oui, ouais. toutes les couleurs marchent. On peut faire n'importe quelle couleur. Là, on a un joli écossais, là, je ne sais pas si vous l'avez vu, avec du orange.
Ah oui, voilà, orange et un peu turquoise.
Voilà, c'est alors opale et orange, ce qui tranche. Donc
et
voilà.
Qu'est-ce que vous allez produire avec ça? Une robe de chambre?
Oui, on va tout faire, robe de chambre, des vestes, des plaids, des couvertures... Voilà.
J'ai vu aussi dans la boutique des accessoires.
Oui, on fait pas mal d'accessoires, des mitaines, des tours de cou, des écharpes. Voilà, on essaye de se diversifier en faisant des petits articles qui se vendent plutôt pas mal.
Donc vous êtes à la production des tissus. Vous nous avez dit que vous avez une styliste. Il y a des couturiers, des couturières?
Oui, effectivement, il faut des couturières. Donc elles sont trois au petit atelier et voilà.
Ça veut dire que chaque pièce qui est produite est une pièce unique?
Oui, toutes nos pièces sont uniques, coupées à la main, faites à la main. Voilà, dans notre petit atelier. On les contrôle aussi manuellement. Avant de les emballer, on leur met un dernier petit coup de brosse pour redonner un peu de volume au tissu. Tous nos produits sont faits avec amour. Voilà.
C'est un vrai défi économique de porter une entreprise comme celle-ci sur un territoire comme le nôtre. Et en même temps, c'est aussi le pari de la valeur, le pari que eh bien, le consommateur, l'acheteur, le client va apporter de l'attention à la qualité du produit et au côté unique de ce que vous produisez.
Oui, nous ce qui m'importe, c'est la qualité. Il faut que... mon père m'a inculqué cette qualité, donc j'essaye d'y mettre tout mon cœur aussi dedans pour donner le meilleur de nous-mêmes. Voilà.
Alors vous avez grandi dans cet univers, vous avez repris l'entreprise familiale. Pour vous, c'était une évidence ?
Oui, c'était une évidence. J'ai fait mes études en fonction de mes choix, j'ai toujours voulu venir travailler ici. Oui.
Parce que ce métier-là, sur toutes les machines que vous nous avez présentées, ce sont quand même des pratiques très particulières. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes en France qui savent utiliser ces machines. Est-ce que vous avez, vous, le sentiment de pratiquer une profession un petit peu hors du commun ?
Oui, bien sûr. C'est un métier unique, bien évidemment. Alors, en France, les fabriques de textiles se font de plus en plus rares. Donc, et de plus, le tissu des Pyrénées, je pense que je suis peut-être le seul en France à faire ce que je fais. Voilà.
Avec quand même ce retour, on le voit parfois, on l'entend parfois dans les médias, ce retour quand même aux
matières nobles, oui.
Les matières nobles, voilà. La laine a une seconde vie, vous diriez ça ?
Ben oui, nous en tout cas on essaye de lui donner une seconde vie, une seconde jeunesse, et voilà, on essaye de faire perdurer cette matière qui est essentielle.
Comment est-ce que vous vendez ? Alors je crois qu'il y a une boutique ici sur place, hein, au magasin d'usine, mais vous avez d'autres moyens de vente ?
Alors on a bien évidemment le magasin d'usine, ensuite nous avons créé récemment aussi un site internet, vendeur, voilà. Et ensuite, on vend à des boutiques de centre-ville, on vend à des revendeurs internet aussi, voilà. Et on a un autre client qui est comme un revendeur par correspondance, un peu style les Trois Suisses, voilà. Mais spécialisé, lui, dans la laine.
Qui sont vos clients ? Est-ce que ce sont des personnes d'ici qui sont vraiment attachées au patrimoine et à ce savoir-faire qu'ils ont vu et dont ils ont entendu parler de génération en génération ? Est-ce que ce sont aussi des touristes ? Est-ce qu'il y a un petit peu de tout ?
Alors on a de tout, on a des locaux, on a des curistes, on a des touristes, des gens qui passent devant l'usine, qui voient l'usine, s'arrêtent, viennent visiter nos ateliers et ensuite achètent un petit truc au magasin. Voilà, ça vient de partout.
C'est ça aussi la particularité, et je tiens quand même à le dire, c'est l'accueil et la disponibilité. Vous êtes 6 dans l'entreprise, vous avez beaucoup de travail, vous ne chômez pas, mais par contre, quand quelqu'un arrive, vous vous rendez tout de suite disponible pour faire visiter, pour présenter. Ça fait partie, c'est comme ça aussi que vous voyez votre métier, ça fait partie de votre métier de montrer, d'expliquer. Et le côté pédagogique, il est important pour vous ?
Oui, bien sûr, ça fait connaître notre métier, c'est essentiel, donc on a souvent des visites, on fait faire des visites par l'Office du tourisme de Bagnères, ils nous amènent énormément de monde, donc bien sûr, quand des gens viennent visiter l'usine et nous posent des questions, on s'arrête, on leur répond, et ça fait... les gens ne soupçonnent pas qu'il y ait autant d'étapes de fabrication dans un vêtement, voilà.
Ouais, et puis un réel savoir-faire avec une équipe que l'on voit jeune, et ça fait plaisir de voir ça. Alors une dernière question, un peu une question qui fâche, mais peut-être que parmi nos auditeurs, certains se disent, oh bah oui, c'est très joli, c'est très bien, le savoir-faire, acheter directement au producteur, mais tout ça, ça coûte cher, alors il vaut mieux sur des grandes lignes, voilà, des grandes chaînes de vêtements. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à cet argument du prix ? Entre la qualité et le prix, quelquefois, on ne sait pas quoi choisir. Qu'est-ce que vous pourriez répondre ?
Je ne sais pas trop. Moi, je fais de la qualité. Voilà. Bien sûr, chaque travail mérite salaire. Donc, on se donne du mal pour faire un produit de qualité. Donc, c'est normal qu'il soit un peu excessif.
Et un produit qui dure.
Bien évidemment, dans le temps.
Parce que là, ce que vous produisez, ça peut durer toute la vie.
Oui, ça peut durer toute la vie. Nous, on a régulièrement des gens qui viennent nous voir, nous dire, voilà, il y a 20 ans, il y a une vingtaine d'années, je suis venu acheter une robe de chambre chez vous, et là, elle commence un peu à s'user, un peu sur les coudes.
Au bout de 20 ans.
Au bout de 20 ans.
Voilà la différence entre ce qu'on achète sur des chaînes de vêtements.
Bien sûr, c'est sûr qu'un t-shirt fabriqué en Chine, il va vous faire 3 lavages, il va être un peu en biais, donc... Voilà.
Ça n'arrive pas avec les articles du Val d'Arise. En fait, j'ai encore une question. Ça, c'est un petit peu la ménagère qui se pose la question. Comment on lave ? Comment on entretient ? Ça ne se lave pas peut-être la laine, alors, c'est pas bien. Je vous vois bondir.
Non, la laine ne se passe surtout pas en machine. Sinon, on se retrouve avec un vêtement pour enfants.
Même sur les programmes spécial laine ?
Oui, exactement. Nous, ce qu'on recommande, c'est un coup de brosse. Et laisser aérer, voilà. Bon, bien sûr, si vous faites une grosse tâche avec un liquide, tout ça, il vaut mieux l'amener au pressing, lavage à sec. Mais sinon, si c'est juste
des odeurs, par exemple.
Voilà, des odeurs, et bien vous mettez un coup de brosse, vous le laissez aérer. Et la laine est une matière naturelle, elle se auto-lave. En fait.
Ben voilà la bonne réponse. Merci beaucoup. Alors, je rappelle le site internet www.vda.fr. www.vda.fr. Sur ce site internet, on a à la fois un petit peu d'histoire, un petit peu de présentation de votre métier et puis la possibilité d'acheter en ligne les productions qui sont chacune des pièces est unique. Hein, voilà.
Exactement.
Voilà. Merci beaucoup.
Merci à vous. Bonne journée.
Présence, place du Capitole, 97.9.
Les podcasts de Radio Présence.
Podcast de Radio Présence.
Toutes les émissions et chroniques de votre radio en réécoute sur le site internet de Présence.
Immersion.
Vivante Église.
De passage à Lourdes.
Église Actualité.
Présence Matin.
Parole d'auteur. Toutes les émissions et chroniques de votre radio. www.radioprésence.com.
Un service de Radio Présence.
Balade en pays de Lourdes. En partenariat avec l'Office de Tourisme de Lourdes.
5 balades pour découvrir Lourdes et ses alentours. C'est aujourd'hui le thème de notre chronique avec Laurent, que j'ai le plaisir d'accueillir en studio. Bonjour Laurent.
Et bonjour Gilles, comment ça va ?
Bien, vous faites partie de l'Office de Tourisme de Lourdes et chaque semaine on vous retrouve pour visiter Lourdes et le pays de Lourdes. Et aujourd'hui vous avez décidé de nous emmener en balade.
Exactement, l'idée c'était de vous donner 5 exemples de promenades, balades, randonnées aux alentours de Lourdes, de façon à pouvoir sortir en famille, en couple, voilà, et découvrir en fait les alentours de la ville.
Alors quand on dit balade, ce sont des balades accessibles, hein, vous l'avez dit, c'est familial, il ne faut pas avoir une condition physique exceptionnelle.
Voilà, on va avoir des balades effectivement très familiales, où là c'est presque la balade du dimanche, et on a des petites randonnées qui sont pas ultra techniques. Par contre, effectivement, comme toute chose, on recommande de s'équiper comme il faut au niveau des chaussures, de s'équiper comme il faut, de prendre quand même son sac à dos, sa petite gourde d'eau, enfin voilà, avoir le basique minimum vital, mais c'est pas ça demande pas un brevet en fait de haute montagne pour les faire.
Allez, première balade, on part de quel côté ?
On part au Pic du Gers, bah, c'est peut-être la plus connue à Lourdes, donc c'est aussi une très jolie randonnée. Donc le point de départ se situe près du funiculaire, en fait, de la gare du funiculaire en bas. Et donc on va monter, en fait, il y a du balisage, et donc on va monter environ pendant 1h30 par les lacets, regagner en fait la route et les chemins qui ramènent jusqu'à le point haut du funiculaire, où on peut là du coup découvrir en fait toutes les vallées environnantes de Lourdes avec des panoramas magnifiques. Donc voilà, partant dégagé, on voit même jusqu'à l'aéroport Terre Lourdes. Voilà, on voit la vallée des Gaves. On voit tout ce qui peut entourer la ville et on comprend mieux la situation géographique de la ville de Lourdes.
Donc là, c'est la montée du Pic du Gers, 1h30.
1h30 à peu près, voilà. Alors après 1h30, 2h, ça dépend si on veut prendre le temps sur une balade bucolique ou sportive. Ensuite, on va partir au lac de Lourdes. Là, on est plus sur une promenade familiale. Donc, c'est un tour qui fait, 6 à 7 kilomètres. Je ne l'ai pas mesuré précisément. Là aussi, c'est encore plus simple, effectivement. Le chemin est facile à trouver, balisé aussi. Et on va longer le lac de Lourdes avec, pour le coup, un enchaînement de panoramas très différent. Donc, on va avoir De l'embarcadère, en fait, on va passer par le petit chemin qui va dans le bois. Du chemin qui va dans le bois, on va arriver à la tourbière, donc il y a une zone Natura 2000, une zone classée, en fait, assez intéressante pour son écosystème, en fait, sa faune et sa flore. Après, on va repartir par des petits chemins plus, on va dire, champêtres. On peut retrouver un peu de bétail, quelques habitations. Là, si on s'arrête dans cette partie-là, on a une superbe vue sur le piémont pyrénéen. Donc, selon la saison, bah, l'été, c'est ça, c'est sympa, c'est magnifique. L'hiver, on pourra voir les sommets enneigés des Pyrénées. Donc, c'est assez majestueux aussi. Et voilà. Et tranquillement, on va revenir, en fait, au parking de l'autre côté. Donc, là, on est parti pour, pareil, une bonne heure et demie de balade, on va dire, autour du lac.
Voilà, quasiment sans dénivelé. C'est pratiquement plat.
Oui, il y a une petite montée à un moment donné, mais qui est largement faisable, accessible.
Voilà. Troisième balade autour de Lourdes.
Le Béhout, autre pic, on a parlé du pic du Gers, donc le Béhout qui est juste en face, donc qui est un peu plus bas, hein, puisque pic du Gers, on est quasiment pas tout à fait à 1000 mètres d'altitude. Le Béhout, on sera, je crois, de mémoire, à 700 mètres d'altitude. Donc on voit cette ancienne gare de téléphérique. Donc là, on va partir par le parking de l'avenue Paradis, on va longer le Gave, et là encore par le chemin balisé, faire le tour. Et donc, assez vite, en 10 minutes, se trouver hors de Lourdes, arriver dans la nature, dans les champs, donc sur la vallée de Bat-sur-Guerre, où on trouve les fermes, les élevages. Voilà. Et là, on va, par le chemin, donc attaquer la petite colline et monter progressivement, et arriver sur un plateau avec des arbres qui sont superbes. Où là, quand on se retourne, on voit la vallée de Bat-sur-Guerre avec Omex, Ségus, enfin les petits villages autour. C'est superbe, le contrefort pyrénéen. Et quand on remonte un peu plus haut, bah, du coup, on va arriver sur la ligne de crête. Et là, on verra Lourdes en bas, majestueuse, qui s'étale à nos pieds.
Et quand on est en haut, on fait demi-tour, il n'y a pas de boucle.
On fait demi-tour, on peut descendre par l'autre versant, du côté de la cité Saint-Pierre. Il y a un chemin, effectivement. Alors là, il est un peu plus technique que l'allée. Donc voilà, si on n'est pas très rassuré, on revient d'où on est parti. Si on est un peu aventurier et en bonne condition, effectivement, on peut attaquer la descente côté cité Saint-Pierre. Et par la cité Saint-Pierre, redescendre au parking, en fait, en bas, vers l'avenue du Paradis.
Voilà pour la balade au Béhout, le quatrième endroit.
Le quatrième, bon, celui-là il est assez facile, c'est le chemin de Maradette, en fait, qui amène à Bartrès. Donc l'idée, c'est de partir bien sûr du sanctuaire quand on est à Lourdes, et de remonter. Donc le chemin là aussi est balisé. C'est pas un itinéraire qui va être extrêmement long, hein, ça fait à peu près 5 km de distance. Et bon, c'est un chemin qui est souvent emprunté aussi par les visiteurs, les voyageurs, les pèlerins qui aiment bien se rendre à Bartrès pour marcher un peu sur les traces de Maradette. Et on va monter sur cette petite colline qui est Bartrès, qui domine Lourdes avec des vues magnifiques, et on pourra bien sûr aller retrouver un peu l'histoire de Bernadette, des lieux où elle a pu vivre ou séjourner.
Et enfin, la dernière balade.
Alors la dernière, c'est une qu'on met peut-être pas trop souvent en avant, qui est un peu plus confidentielle, mais c'est le trajet de Lourdes, en fait, à Arcisac-Esangles, en passant par Enclade. Donc là, on va quitter Lourdes, en fait, par le trinquet du Tidos, on va passer par le Pigeonnier en montant un peu, on va redescendre direction l'église Sainte-Bernadette d'Enclade. Donc là, on est encore sur la thématique de Bernadette, quelque part. Et on poursuit, en fait, par un petit chemin qui va couper la route de Julos. On va aller vers Les Angles, on arrive à Arcisac-Esangles. Là, il faut traverser la route. Il y a un passage qui trace la route. Il y a un chemin qui part dans le champ en face. Et on va rejoindre Lézignan, à nouveau Enclade. Et on revient sur Lourdes. Donc, ça fait une petite boucle, enfin, dans cette vallée de la route de Bagnères. Et c'est la même chose. C'est assez bucolique, assez pittoresque. On voit des petits villages, des petits cours d'eau. On va trouver des fermes. On va trouver des élevages. Donc, on va croiser des ânes, des chevaux, des vaches, des moutons. Enfin, voilà, c'est assez sympathique. Et on est sur une randonnée qui, bon, là, est un peu plus longue. Elle fait 12 km. Mais il n'y a pas de gros dénivelé. Donc si on a, on va dire, 2h30, 3h de temps à passer en famille, c'est très agréable.
Voilà, 5 propositions de balade et de sortie autour de Lourdes, avec différentes propositions, hein, le Pic du Gers, le Béhout, le lac, la Bat-sur-Guerre et puis la vallée d'Arcisac. Voilà, on peut aussi le faire en vélo.
Alors, une partie de ça peut se faire en vélo, peut-être pas le Béhout ou le Pic du Gers, mais par contre, côté Arcisac, effectivement, on peut trouver d'autres randonnées sur le site de l'Office de Tourisme.
Et c'est là-dessus qu'on va se quitter, évidemment, avec le site de l'Office de Tourisme de Lourdes. Et moi, je vais vous remercier, Laurent, et je vous dis à très vite pour un prochain rendez-vous. Balade en Pays de Lourdes. Merci.
Merci Gilles. À bientôt à Lourdes.
Balade en Pays de Lourdes, en partenariat avec l'Office de Tourisme de Lourdes.
mes regrets sincères. Vraiment désolé pour toi. Tu repars vers ta galère, mais cette fois ça sera sans moi. Sur la route 66, personne ne t'attend là-bas. Avec des fantômes que tu ne vois pas, toutes légendaires, croiser des mystères, mais maintenant sans vie, dans l'oubli, au bout du rêve, la magie s'achève.
Sur le plateau du Larzac, 106.5.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Une paix désarmée et désarmante. Les premiers mots du souverain pontife ont